J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Bartas 107 FM. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Bonjour Virginie, bonjour à toutes et tous.
Alors Margot, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va rencontrer Jérémy Gessler, qui est directeur du CRI de Bois Occitanie, et qui va nous parler de l'étude réalisée sur l'utilisation du pin maritime comme mobilier extérieur. Puis Aymeric Sulmont, garde-moniteur au Parc National des Cévennes, nous parlera des insectes xylophages dans sa rubrique « Plantes et animaux des bois ».
Bonjour Jérémy Gessler.
Bonjour à tous.
Alors, pouvez-vous nous présenter, eh bien, qu'est-ce que c'est que le CRI de Bois Occitanie ?
Oui, alors tout d'abord, je vais me présenter personnellement. Donc, je suis Jérémy Gessler, je suis un directeur du CRI de Bois Occitanie. Donc, je suis au CRI depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai repris la direction il y a 6 ans de ça. Et alors, si vous permettez, je vous présenterai aussi deux partenaires, puisqu'on est sur le projet qu'on va présenter. On était deux partenaires, on était le CRI de Bois et la PFT Bois. Donc, pour commencer, le CRI, en fait, on est un bureau de conseil, ingénierie, formation. Donc, un statut associatif. Aujourd'hui, donc, on a une centaine d'adhérents. Et donc, on travaille sur tout ce qui est travail mécanique du bois. Donc, on va accompagner des gens à développer des produits, développer des projets et les accompagner dans les compétitivités. Donc voilà, c'est nos missions principales. Et donc, pour faire ces missions, on collabore avec la PFT Bois Occitanie, qui en fait est un regroupement de plusieurs lycées. Donc, ils mettent à disposition du temps enseignant, du temps élève et leur plateau technique pour arriver à créer les produits et à prototyper les produits et à essayer aussi les différents tests mécaniques qui peuvent être réalisés sur le bois. Donc nous, on a un rayon d'action qui est régional essentiellement. Hein. Donc on va travailler sur l'Aveyron, puisque nous on est basé en Aveyron à Rodez, et on va travailler sur toute l'Occitanie et un petit peu à national sur certaines missions.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer PFT Bois, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors PFT Bois, ça veut dire plateforme technologique bois. Donc en fait, c'est un label qui est spécifique au lycée. Donc ce sont des structures associés au lycée qui, eux, permettent de travailler avec des professionnels.
Et vous avez donc étudié la valorisation du pin maritime. C'est une essence qu'on a pas mal, du coup, dans nos Cévennes et qui est aujourd'hui assez mal valorisée. Donc, on a étudié avec vous la possibilité de valorisation de cette essence en mobilier extérieur. Et on a notamment, enfin, vous avez réalisé un prototype de table de pique-nique. Et habituellement, quelles sont les essences qui sont utilisées pour réaliser ce type de mobilier extérieur ?
Alors déjà pour démarrer, je vais quand même représenter quelques notions de base sur le bois avant de parler des essences, puisque le bois, il faut rappeler que c'est composé de trois matières principales qui sont l'écorce, l'aubier et le duramen. En fait, l'écorce, c'est ce qui va protéger la structure du bois. L'aubier, donc c'est toute le bois qui est en croissance, donc c'est le bois vivant, en fait, c'est celui qui va permettre l'écoulement de la sève notamment. Et le duramen, en fait, c'est la partie morte, inerte du bois, qui elle, en fait, ne contient plus de vie et la partie la plus dure. Donc lorsqu'on parle de bois, donc il y a ces trois notions à comprendre. Donc l'écorce, c'est quelque chose qui est toujours enlevé lorsqu'on va travailler mécaniquement le bois. Et l'aubier, en fait, voilà, c'est la partie la plus tendre et c'est celle qui est la plus sensible, en fait, aux attaques biologiques. Donc quand on parle d'attaques biologiques, eh bien, il faut parler de votre prochain interlocuteur en parlera mieux que moi, hein, certainement. Donc c'est les attaques biologiques, à la fois les champignons, les termites et tous les insectes xylophages. Donc on va classer ces différents bois en fonction d'une norme pour déterminer leur durabilité naturelle. Et en face de ça, on a une autre norme qui va classer ce qu'on appelle les classes d'emploi du bois. Donc les classes d'emploi, vous en avez 6. Donc vous avez la première de 1 à 5. La 1, c'est la classe d'emploi la plus favorable, c'est-à-dire ce sont les bois qui sont placés à l'intérieur, toujours à l'abri des intempéries. La classe 2, ce sont les bois intérieurs, mais qui peuvent être mis à l'extérieur sous abri. Et la classe 3, qui est déplacée en deux sous-catégories, donc la 3A et la 3B, ce sont les bois qui sont placés à l'extérieur, mais qui vont avoir des alternances en fait d'humidification et de séchage rapide. Donc la 3A, il n'y a pas de stagnation d'eau, et la 3B, vous avez de la stagnation d'eau. Donc nous, sur du mobilier, c'est cette classe d'emploi en fait qui est visée. Il faut qu'on utilise des bois qui soient classés au minimum 3B. Et ensuite, il y a la 4A, qui, elle, en fait, ce sont les bois placés à l'extérieur, qui peuvent être en contact avec le sol ou avec l'eau. Et ensuite, il y a la classe 5, qui, elle, va concerner tous les bois en contact avec l'eau de mer, voilà, qui sont immergés. Donc, en fonction de ces catégories, on va arriver à classer un peu les différents sens de bois. Et dans le mobilier extérieur, en fait, ce qui est pratiqué depuis des années, c'était la large utilisation, notamment des bois exotiques. Donc, les bois exotiques qui, eux, sont naturellement en classe 5. Donc, je rappelle qu'on parle de classe, ce sont des bois qui sont purgés d'aubier, c'est-à-dire que l'aubier, lui, a une classe 1, maximum 2. Donc qui n'est pas durable. Donc lorsqu'on parle de classe, et quand je vais parler de classe, c'est toujours de hors aubier. Donc les classes 5, ce sont tous les bois exotiques, notamment les essences un peu connues comme le teck, l'ipé, l'iroko, et après certains bois exotiques rouges, donc qui peuvent être utilisés pour faire du mobilier extérieur. Ensuite, on a le robinier, donc qui est une essence qui pousse en fait dans nos contrées, qui lui est classé naturellement en 4, qui peut être utilisé pour faire du mobilier extérieur. Et ensuite, on a les essences plus largement utilisées, qui sont le Douglas, qui est aussi purgé d'aubier, qui est en classe 3B, le mélèze, le châtaignier, le chêne. Voilà, donc ça, c'est les essences, en fait, qui ne nécessitent pas d'avoir de traitement spécifique lorsqu'on purge l'aubier. Et ensuite, eh bien, il y a le pin qui est l'essence la plus utilisée dans les mobiliers extérieurs. Hein. Et là, bon, il y a différentes classes que je vous parlais certainement tout à l'heure. Et le pin, en fait, lui qui est classé, qui est en classe 2 ou 3, si on le purge d'aubier, et voilà, qui va nécessiter une application un peu particulière.
Donc en fait, le pin maritime, il ne peut pas être utilisé en extérieur sans traitement, c'est ça?
Voilà, donc le pin maritime, lui, ne peut pas être utilisé à l'extérieur sans traitement préalable. Donc en fait, sur le pin maritime, il faut comprendre qu'il y a plusieurs essences de pin. Donc il y a une très large utilisation des pins européens, donc pin du Nord ou pin d'Europe centrale. Et puis après, il y a des pins utilisés en France, donc qui poussent massivement sur le territoire français, donc c'est le pin civetre, le pin riccio, le pin noir et le pin maritime, voilà, qui sont utilisés essentiellement dans le produit de seconde. Donc oui, lui, le pin doit être traité parce que l'intérêt de traiter le pin, notamment, c'est de traiter l'aubier. L'aubier qui, lui, a une durabilité très faible, et c'est surtout cet aubier qu'il va falloir traiter pour un usage extérieur. Alors pourquoi le pin est beaucoup utilisé? Mais parce que le pin a des qualités, parce que déjà il est présent hein, dans les massifs, et puis après il a une qualité mécanique intéressante, il a des facilités de séchage, il a un tarif qui est également plus faible que d'autres feuillus pour usage extérieur. Et puis surtout, il a une capacité, une compatibilité de traitement en classe 4. Donc ce qu'on appelle les traitements par autoclave. Donc là, l'aubier, lui, va avoir une capacité d'imprégnation forte qui va permettre de classer l'ensemble du pin en classe 4. Donc pour un usage totalement extérieur.
Et vous pouvez nous parler un petit peu des différents types de traitements? Vous venez de parler de l'autoclave, vous pouvez nous expliquer, et est-ce qu'il y a d'autres types de traitements pour le pin?
Alors les traitements, en fait, on a trois principaux qui sont utilisés. Il y a le traitement par trempage, où là, en fait, le process, c'est de tremper le bois dans une solution de produits chimiques, et là, le bois va s'imprégner. Donc là, on va arriver à classer jusqu'à des classes 3. Des bois. Ensuite, il y a le traitement, ce qu'on appelle par autoclave. Donc là, c'est le fait de faire du vide, en fait, qui va permettre aux produits chimiques aspergés de vraiment pénétrer au cœur du bois. Et donc, il y a certaines essences qui ont des capacités d'imprégnation plus faibles que d'autres. Donc, lui, le pin, se prête bien à ce traitement autoclave parce qu'il a une capacité d'imprégnation assez forte. Donc, on va traiter le cœur du bois classe 4 par traitement chimique. Donc là, ce sont à chaque fois des deux process, en fait, où on va utiliser du produit chimique pour éviter la prolifération des champignons, mais aussi pour éviter que les insectes aillent manger le bois. Et la solution alternative, donc là, c'est le traitement, ce qu'on appelle le traitement haute température. Donc le principe du traitement haute température, en fait, c'est que on va venir sécher le bois. Et on va venir le traiter à cœur par des paliers progressifs de montée en température. Donc on va passer de 100 à 240, 250 degrés pour permettre en fait de venir vraiment torréfier le bois et venir en fait rendre inerte son cœur et le rendre du coup complètement matériau inerte. Donc ça c'est un process assez industriel. C'est le principe, c'est qu'on met les bois dans des fours et donc on fait des montées de température. Et pour éviter qu'il y ait des combustions du bois lors des montées de température, on va faire de l'inertage. Donc on va supprimer l'oxygène qui est le comburant avec soit de l'apport d'azote, soit de la vapeur d'eau l'apport d'azote, soit de la vapeur d'eau, qui va venir inerter en fait le process et éviter l'inflammation.
Et les élus donc du PETR Sud-Lozère, qui étaient à l'origine de cette étude, avaient vraiment la volonté de travailler et de produire un prototype donc le plus écologique possible. C'est pour ça que on a choisi donc le traitement thermique pour le bois, comme on l'a dit. Donc il n'y a pas de produits chimiques. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à ce type de traitement et quels sont également les inconvénients du traitement thermique des bois?
Le gros avantage en fait du traitement thermique, c'est la possibilité justement de rendre le bois donc au biais ou duramen en classe 3 ou 4 en fonction donc du traitement et de la montée en température. Et en fait, pourquoi ça devient une classe 3 ou 4, c'est que là on va perdre la capacité de refil du bois et l'appétence des insectes, les xylophages, c'est-à-dire qu'ils vont pas venir s'attaquer à ce bois-là. Donc l'avantage, c'est qu'on peut classer 3, 4 ou 4, et l'avantage également, c'est qu'on va supprimer l'apport de produits chimiques. Donc là, c'est un produit qu'on appelle écologique dans le sens où, en fait, on va même pas apporter une matière transformée différente. Ensuite, on va aussi améliorer la stabilité dimensionnelle, c'est-à-dire qu'un bois traité thermiquement, on va avoir très peu de retrait gonflement, puisque justement il est hydrophile, donc on va avoir une stabilité dimensionnelle assez forte. Et on vient aussi augmenter la dureté, c'est-à-dire que le bois devient très dur, donc on a une augmentation à la résistance, à la compression en fait, qui est vraiment, vraiment améliorée. Et en contrepartie à ça, en fait, et vu qu'on vient augmenter la dureté du bois, par contre, on vient abaisser sa résistance à la flexion, c'est-à-dire que là, le bois, faut s'imaginer, lorsqu'on va faire un effort sur une planche en fait, et le bois va devenir beaucoup moins souple, donc il devient plus cassant. Donc il y a des réflexions à avoir dans les conceptions lorsqu'on utilise du bois thermochauffé, puisque là on sait qu'on a une perte de résistance à la flexion. Et le deuxième désavantage en fait, c'est le fait qu'on utilise de l'énergie en fait pour faire fonctionner le four de traitement, et donc on va consommer de l'électricité pour faire ce traitement là.
Merci. Comme disait Margot tout à l'heure, sous l'initiative du PETR Sud-Lozère, depuis 2019, on travaille ensemble. Et donc, vous avez réalisé une étude technico-économique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle a consisté et qu'est-ce que vous avez pu étudier?
Oui, donc l'étude qu'on a réalisée, en fait, on est parti du principe, en fait, où c'était la valorisation donc, du pain maritime, donc pain qui naturellement ne peut pas être issu à l'extérieur. Et donc on a voulu créer le Pays de Lozère a voulu valoriser cette essence par du mobilier extérieur. Donc là, on a fait toutes les phases qui vont permettre la pré-industrialisation du mobilier, c'est-à-dire qu'on a fait la conception, donc ça, c'est la conception numérique. 3D. Donc ça c'est le lycée de Aubin qui héberge la PFT Bois Occitanie, c'est Monsieur Guillaume Saulier qui est enseignant au lycée d'Aubin, qui a réalisé la conception de ce mobilier, avec quand même des spécificités de conception, qui permettent en fait une facilité d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on est sur des pièces assez limitées en nombre de références. On est sur du montage standard avec des quincailleries inox standard, avec très peu de références, et avec des sections de bois qui sont aussi standards de sillage. Et on a aussi, enfin, il a aussi travaillé sur la possibilité de faire de la livraison à plat. C'est-à-dire que là, le mobilier, on n'avait pas la nécessité de le monter puis de l'expédier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'expédier à plat, donc moins de prise de place dans les camions de transport. Et après, il suffit d'avoir juste deux personnes qui soient un peu bricoleuses, qui soient capables de tenir une simple visseuse en fait pour monter ce mobilier-là. Donc, on a fait la conception. Après, on a défini le besoin en matières premières qu'il nous fallait. Donc là, on a déterminé qu'il nous fallait en gros 0,25 mètres cubes de bois pour faire le produit. Donc là, par contre, il y a des standards à respecter sur la qualité de bois à avoir au départ. Donc ce qu'on demande, nous, c'est d'avoir des bois qualité menuiserie et des bois secs. Donc ensuite, on a été chercher les bois et on a travaillé avec trois scieries locales, la scierie d'Ardalan, la scierie de Bélouzon et la scierie Nogaret qui ont pu fournir et sécher ce bois-là. Et ensuite, ce bois a été livré à l'entreprise Linivalis, qui est basée à Saint-Saintin en Aveyron, qui possède le four de traitement thermique. Donc c'est la seule unité de traitement thermique qui existe en Occitanie, pardon. Donc c'est l'entreprise Linivalis qui a fait le traitement. Une fois qu'on a fait traiter ces bois, derrière, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est valider les assemblages. C'est-à-dire qu'on a essayé de regarder l'utilité de ce bois-là et son aptitude au collage. Donc le bois thermochauffé, on voulait quand même vérifier qu'il ait une tenue suffisante et aussi qu'on puisse, pour des utilisations futures, pouvoir aussi le coller correctement et faire ce qu'on appelle de l'aboutage. Là, l'aboutage, ça consiste à purger les défauts et à reconstituer la longueur de bois par collage. Donc là, on a pu vérifier ça et on s'est aperçu que le bois thermochauffé, notamment le PM maritime thermochauffé, avait des très bonne aptitude au collage et que les essais étaient vraiment validés. À partir de ce moment-là, en fait, les élèves du coup du lycée de Aubin, accompagnés par Monsieur Guillaume Solé, leur enseignant, ont fabriqué le prototype qui avait été conçu sur une maquette numérique 3D. Et donc là, eh bien, ils ont passé les différentes étapes de production pour réaliser un prototype à l'échelle 1, qui a été totalement finalisé. Et la dernière phase, eh bien, ça a été de faire l'étude de coût de revient. C'est-à-dire que là, eh bien, on a essayé de décortiquer l'ensemble de la différentes étapes de production du mobilier pour déterminer à chaque étape les coûts de transformation du bois jusqu'à arriver à ce qu'on appelle un coût de revient final estimatif, puisque là on est sur des calculs sur des temps et des machines standards. Donc on est arrivé à déterminer un coût de revient sur ce mobilier là. Donc on est passé du début jusqu'à la fin, et la prochaine étape ça sera l'industrialisation du mobilier.
Et concernant du coup la partie économique, est-ce que l'étude des coûts de revient a permis de déterminer si le prototype réalisé était compétitif par rapport à ce qu'on trouve déjà sur le marché ?
Alors nous, ce qu'on a réalisé, c'est vraiment un coût de revient. Alors pour être vraiment clair sur les termes, ce qu'on appelle le coût de revient, c'est pas le tarif de vente. Le coût de revient, c'est le coût de production de la table, mais sur lequel en fait il ne manque des coûts rajoutés. Donc il va manquer le coût, la marge du fabricant, il va manquer les coûts de livraison, et après il va manquer les coûts de distribution. Donc ce que va prendre la personne qui va commercialiser le produit, ce qu'il va prendre comme marge. Donc nous, on est parti sur un coût de revient qui nous paraît acceptable, du fait qu'on est à 300 euros, hein, grosso modo, hein, de 300 euros par table, le coût de revient, et on se situerait avec des perspective de prix de vente dans les catégories un peu haut de gamme sur du mobilier extérieur. Donc aussi il faut comparer les produits qui sont comparables. Donc là l'idée c'était vraiment pas d'aller sur le marché des tables extérieures qu'on trouve en grande surface. Hein. On n'est pas du tout sur la même qualité de bois et qualité de section et durabilité et solidité de mobilier. Donc on est quand même sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Donc on se situerait, donc encore validé sur la phase d'industrialisation, on se situerait sur des tarifs comparables avec un peu le haut du panier du marché du mobilier extérieur.
Et Du coup, ça interpelle, oui, parce qu'il y a eu quand même aussi un travail, voilà, pour le, vous avez dit, pour la conception, l'assemblage, tout ça, le fait de mettre à plat et de faire monter par soi-même, ça rappelle un petit peu les procédés d'un géant suédois. Sauf que bon, là, quand même, c'est made in Seven, que du local. Et est-ce que les réflexions, du coup, sur cette étude-là, ça a été présenté aux professionnels du bois le 25 mars dernier au collège de Dèze? Et est-ce que, du coup, ça a interpellé les professionnels? Est-ce que les réflexions sur ce type de mobilier vont se poursuivre?
Alors oui, le rendu d'études, s'est déroulé et a intéressé beaucoup d'acteurs qui étaient présents. Donc oui, il y a des intérêts qui se sont manifestés, donc à la fois par des menuisiers qui souhaitaient aller plus loin et voir comment, qui étaient vraiment convaincus en fait par le visuel du produit, parce que l'avantage d'avoir un prototype, c'est qu'on arrive à avoir un démonstrateur. Donc les gens étaient convaincus par le produit, par sa fonction, sa conception et son rendu esthétique, aussi par son potentiel de commercialisation. Les élus également, forcément, étaient également intéressés et convaincus de d'arriver à aboutir à une valorisation différente et à plus forte valeur ajoutée du pain maritime. Et puis également les scieurs, donc certains scieurs ont aussi manifesté leur intérêt pour tester en fait à plus grande échelle ces produits et la production en mini-série au moins de quelques tables, avec l'enjeu majeur qu'on aura nous sur cette phase d'industrialisation, ça sera sur la réussite, enfin, sur la qualité et la sécurisation de l'approvisionnement, puisque la plus grosse difficulté, ça va être d'avoir une très bonne sélection des bois en amont de la fabrication, à la fois sur le choix des grumes et également sur le choix des bois et le tri des bois en scierie, juste avant de passer sur la phase des menuisiers. Donc là, les gens étaient vraiment intéressés pour arriver à se mobiliser autour de ce projet-là et autour de cette essence-là, et voir comment les bois de meilleure qualité pouvaient être mieux valorisés dans un ouvrage à plus forte valeur ajoutée.
Et pour finir sur cette étude, est-ce que vous vous avez eu quel a été votre ressenti pour le travail du pain maritime Sevenol? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a interpellé lors de cette étude?
Alors moi, le premier ressenti que j'ai eu, c'est vraiment lorsqu'on a fait le prototype, le rendu final, mais c'est la qualité esthétique. C'est vrai que c'est un rendu qui sort un peu de l'ordinaire, même si la conception, il y a pas des choses totalement extravagantes, mais le rendu, rien que la couleur, on est sur du bois thermochauffé, donc il faut s'imaginer un bois qui est un peu marron, caramélisé, donc ça change un peu du bois blanc, et ça a cet aspect un peu d'une esthétique assez différente, et donc on a vraiment une impression de qualité et de durabilité lorsqu'on observe l'ouvrage fini. C'est-à-dire que là, nous, on a travaillé aussi dans un sens où on est passé sur des grosses sections, donc on a un ouvrage qui est quand même plutôt massif, et on a vraiment l'impression que c'est conçu en fait pour durer dans le temps. Donc c'est vraiment la chose qui saute aux yeux lorsqu'on observe le mobilier.
Eh bien, merci. Et comme on le demande à chacun de nos invités, c'est un petit peu un passage obligé maintenant. Est-ce que vous avez un petit mot forestier ou bois?
Alors moi, ça fait 15 ans que je suis dans la filière bois, toujours basé en Occitanie, et c'est vrai que depuis mes débuts, on parlait depuis le début sur la thématique de valorisation des bois locaux, de tout le travail en circuit court. Donc c'est toujours des vœux qui étaient formulés par de nombreux acteurs, mais on avait toujours du mal en fait à transférer cette volonté en fait sur des projets concrets et dans des proportions et des volumes significatifs. Alors il y avait diverses raisons à ça. C'est aussi à la fois des fois les qualités de bois qui sont pas adaptées, on a des tarifs de bois qui étaient aussi fortement concurrencés par les bois européens, et aussi il y avait des fois de la méconnaissance en fait pure et simple des acteurs et des savoir-faire qui sont présents localement. Et puis voilà, donc là on a vu qu'avec les différents événements mondiaux qui se passent en ce moment, eh bien, on voit qu'avec toutes les grandes difficultés d'approvisionnement qu'on a depuis 3 ans, eh bien, on voit qu'il y a même une vraie volonté sociétale à la fois de la part des consommateurs, mais aussi des politiques, des prescripteurs et des professionnels de la filière bois, pour vraiment travailler en circuit court et sécuriser l'approvisionnement. Voilà, donc on est peut-être à une phase où on va peut-être repenser un peu nos modes de consommation et réfléchir différemment pour apporter plus de valeur ajoutée localement. Et surtout que chaque maillon de la chaîne de la filière bois y trouve son compte.
Merci Jérémy Gessler pour toutes ces informations sur la valorisation du pain maritime. Avec Virginie, on va juste rapidement vous parler d'une autre valorisation du pain maritime qui est le gémage. Donc on avait déjà parlé du gémage dans cette émission et en fait ce projet continue et il y a plein de choses en cours. Donc tout d'abord, il y a une campagne test de gémage à plus grande échelle qui va se faire sur l'ASLGF du Chambon, donc en collaboration avec la coopérative forestière forêt privée lausérienne et garoise, donc qui va se réaliser là à partir du mois de mai 2022.
Et on a aussi un partenariat avec l'INRAE, à Montpellier et l'Université de Montpellier, donc avec des collègues chimistes qui étudient du coup la composition de la résine de pain maritime pour essayer de trouver plusieurs valorisations. Et il y a un partenariat en cours pour essayer avec le PETR Sud-Lozère, Pays des Cévennes et ces organismes-là pour faire un contrat de recherche pour continuer de travailler ensemble et puis qu'elles puissent apporter aussi leur expertise pour essayer de bien distiller cette résine qui est quand même assez, assez particulière.
Et puis enfin, dernière chose qui est également en cours, c'est une étude économique sur la faisabilité de la mise en place d'une micro-filière de gémage dans notre territoire Cévenol qui est en cours et qui devrait très prochainement aboutir. Et pour rappel, du coup, le gémage, c'est la récolte de la résine sur le pain maritime. Voilà, toutes les actualités sur le pain maritime. Merci encore, Monsieur Gessler, et à bientôt. Merci.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas 107 FM et nous vous proposons une pause musicale avec le titre Forest du groupe System of a Down.
You saw the product of it all. No televisions in the air, no circumcisions on the chair. You made the weapons for us all. Just look at us now.
Bonjour Aymeric, tu es toujours garde-moniteur au Parc National des Cévennes.
Oui.
Et tu vas nous présenter ta rubrique Plantes et animaux des bois. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un insecte qui est en lien avec le sujet dont on vient de parler. Donc avec un insecte qui s'attaque au pin, qui est le bupreste du pin.
Tout à fait. Et ben, je voulais rebondir sur l'intervention de Jérémy parce qu'elle m'a beaucoup intéressé et je trouve qu'il n'a pas suffisamment presque insisté sur l'impact environnemental très positif. Évidemment, alors c'est du bois qu'on chauffe, mais c'est du bois qui a nettement moins de transport. Et autre chose, c'est surtout un bois qui laisse tranquille les forêts tropicales. Parce que aujourd'hui, les bois imputrescibles qui ont beaucoup de la côte, ce sont des bois comme le teck, l'ipé, qui viennent de très loin et dont l'exploitation est pas toujours durable. Et même si elle est durable, c'est quand même des bois qui sont transportés sur de très longues distances. Et quand on sait, voilà, la santé de ces forêts tropicales et leur importance au niveau de la conservation de la biodiversité, je trouve que c'était important de dire que c'est une opération qui a un impact qui est local, mais qui est aussi extra-local, puisqu'il va éviter, s'il a du succès, d'exploiter des essences rares qui sont dans des milieux extrêmement riches en biodiversité.
Et des forêts primaires, parce que si chez nous en France on n'a plus de forêts primaires, effectivement en forêt tropicale c'est là où il y a encore de belles forêts primaires et qui ont un rôle planétaire, quasi.
Donc pour revenir à biodiversité, voilà, dès qu'on parle de bois, eh ben on parle aussi des mangeurs de bois. Alors c'est ceux pour lesquels Jérémy lutte, hein, les mangeurs de bois, que ce soit les champignons ou les coléoptères ou d'autres bestioles qui mangent le bois. Et là, je voulais vous parler justement d'un xylophage. Alors un xylophage, qu'est-ce que c'est? Vous savez, xylo c'est le bois, phage c'est manger, et c'est un mangeur de bois le xylophage. Et dans les mêmes même formation de mots, il y a la xylologie. Est-ce que vous savez ce que c'est la xylologie?
Non,
je ne sais pas.
C'est l'étude des bois, en fait, des différents bois, des différentes essences. Et oui. Du coup, ça s'étudie avec une xylothèque.
Okay. Oui.
C'est-à-dire une collection des différentes essences pour comprendre comment elles fonctionnent. Et puis donc, quelqu'un qui étudie une xylothèque, c'est un xylophile.
D'accord.
Qui aime bien le bois. Okay. Mais qui ne le mange pas forcément. Ça, c'est le xylophage. Bon, voilà. Ce qui est important pour comprendre qu'est-ce qui contribue, en fait, à créer des conditions optimales pour que les xylophages se mettent en place, c'est notamment le pourcentage d'eau dans le bois. Et il a pas mal insisté sur la grande fragilité de l'aubier dans les bois. L'aubier, c'est la partie extérieure du bois qui, quand le bois est encore vivant, c'est là où circule la sève
brute ou élaborée.
Brute, c'est-à-dire la sève qui monte du sol avec de l'eau et donc si. Donc elle est très riche en eau et dès lors que, et donc c'est souvent ça qui cause l'arrivée, comme il y a plein d'eau à l'intérieur, elle est plus facilement dégradée à la fois par les champignons et à la fois par les insectes. Et c'est pour ça que beaucoup de menuisiers, de charpentiers, par réflexe, enlèvent l'aubier du bois pour travailler et être sûr qu'il y a moins d'attaques. Et on dit qu'un bois qui conserve de l'aubier a plus de chances de se faire grignoter et attaquer par des insectes xylophages. Et une fois qu'ils ont attaqué l'aubier, ils peuvent éventuellement passer au bois de cœur, qui est le duramen et qui est souvent plus dur à attaquer, mais qui peut quand même être attaqué. Voilà, ça c'était un petit topo un peu sur sur les bois. Je sais pas si je vais faire un long discours, mais il y aurait plein de choses à dire en fait sur qu'est-ce qui est fait, de quoi est fait le bois. Mais j'en avais déjà parlé. Vous savez que le bois, il est fait de en gros de trois polymères. C'est compliqué, c'est de la chimie, mais il y a de la cellulose dedans, c'est comme le papier. Il y a de la lignine, et puis il y a de l'hémicellulose. Et c'est ces trois composés qui forment le bois. Et il y a trois catégories de champignons qui s'attaquent quasiment à chacune de ces composés. Alors, soit de manière soit ensemble, soit de manière séparée. Et en fonction des conditions en fait, où le bois pourrit, où le bois est stocké, ben, c'est un tel ou tel autre champignon qui va attaquer. Et en forêt, dans des forêts humides, on va avoir différents champignons qui vont s'attaquer à, en général, toutes les catégories que je viens de citer, cellulose, lignine et hémicellulose. Et donc, un bois, par contre, qui est conservé dans un milieu sec, petit à petit perd son eau, et effectivement, il est moins attaqué, et il va durer plus longtemps. Pour faire un petit une image avec ce que tout le monde connaît, quand vous circulez dans une vieille châtaigneraie et que vous voyez des vieux châtaigniers qui sont dans des conditions secs, sèches, vous pouvez observer des troncs qui sont peut-être là depuis 50 ou 100 ans et qui ont quasiment pas bougé. Et si vous regardez les vieux ruchers troncs, c'est souvent des ruches qui ont été taillées il y a plus de 100 ans, et ben c'est des bois qui sont dans des conditions sèches et qui se conservent très longtemps. Mais dès lors qu'il y a de l'humidité à la base, les ruches troncs ou le bois commencent à pourrir. Parce que justement, les champignons arrivent. Voilà, cette longue discrétion pour arriver à ma bestiole qui s'occupe de manger du pain. Et le pain est une essence qui, enfin, notamment le pain maritime, est une essence qui croît assez rapidement dans nos contrées et qui du coup est très appétissante pour un certain nombre de champignons et de coléoptères. Et le coléoptère dont je veux vous parler, c'est un très beau coléoptère qui s'appelle le bupreste du pain et qui ressemble enfin, qui a des couleurs très très remarquables. C'est métallique, couleur métallique, entre le gris argenté et le rouge cuivré. Et donc en fonction de l'ensoleillement, vous avez ce genre de reflet sur l'insecte. C'est un insecte qui fait 3 cm de longueur à peu près et qui a une forme de balle de fusil. On a tendance à dire que c'est un peu le bulldog des coléoptères, c'est-à-dire que il a le nez complètement aplati. Et donc ouais, en forme de balle de fusil, mais dans l'autre sens. Et cet insecte donc se nourrit du pain maritime et on le voit voler très facilement dès lors que vous avez un amas de grumes, c'est-à-dire de bois coupé de pain au soleil. C'est les endroits privilégiés pour voir cet insecte voler. Et il vole d'un vol non pas lourd mais très très plutôt rapide et assez efficace, contrairement à d'autres coléoptères dont je parlerai peut-être plus tard, et qui sont très lourds et qui s'attrapent facilement. Celui-là, il vole très rapidement, la plupart des buprestes.
Est-ce qu'il s'attaque aux arbres qui vont être blessés et fragilisés, ou il peut aussi s'attaquer aux arbres qui sont sains et vigoureux?
Celui-là, il a tendance à pouvoir s'attaquer plutôt à des arbres qui sont déjà blessés ou abîmés, surtout à des souches notamment. Mais il peut s'attaquer. Alors, la biologie précise des coléoptères est pas toujours très bien connue. Celle-là, je l'ai pas suffisamment étudiée pour te donner des précisions. Mais c'est un insecte qu'on trouve très facilement et qui va pondre justement sur les grumes laissées au soleil. D'où l'intérêt de ne pas stocker les grumes au soleil. Pour plusieurs raisons. D'une part, pour pas abîmer son bois, avec tous les insectes locaux qui vont pondre dedans. Et d'autre part, il y a un certain nombre d'insectes qui peuvent être protégés et rares et qui vont pondre dans ces grumes qui sont destinées à être transformées en papier. Et donc, c'est des pontes qui sont à perte. Donc, c'est dommage, voilà, de stocker ce bois. Ça a un impact à la fois négatif sur la biodiversité et négatif sur la qualité du bois. Donc, ça, c'est juste un petit message aux forestiers. ramassez vite votre bois. que dire de plus? Oui, les Anglais appellent cet insecte le Jewels Beetles, qui veut dire le scarabée bijou. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est tellement coloré et métallique avec ses reflets qu'on dirait effectivement un peu comme un objet cuivré ou doré. Et il y a beaucoup d'insectes de cette famille, des buprestidés, qui étaient utilisés pour faire des bijoux. Donc, soit en boucle d'oreille, soit en broche. Mmh. Et ça, depuis très, très longtemps. Il y a encore aujourd'hui, et malheureusement, ça se développe dans les tropiques, des personnes qui vivent de ce commerce de genre de coléoptères, qui sont effectivement magnifiques, mais dont voilà, la récupération en masse pose un certain nombre de problèmes. Voilà le petit topo sur ce joli insecte. Et je parlerai d'autres insectes mangeurs de bois à la prochaine émission.
Merci beaucoup, Aymeric.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Barta 107FM. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier pour une prochaine émission, n'hésitez pas à nous faire un mail à l'adresse suivante, à notre technicien du son préféré, corto@radiobartas.net. À bientôt, Margot.
À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.